Donc, comment on peut faire ? Eh bien, on va d'abord prendre la thèse un peu optimiste de ceux qui disent en fait, c'est une zone qui est caractérisée par l'incomplétude de cette union monétaire et il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions pour améliorer la situation. Donc, cette vision qui est plutôt la vision positive, celle par exemple du Conseil d'analyse économique que je vais utiliser, qui a fait en mois d'avril une note sur les solutions à mettre en œuvre pour renforcer le fonctionnement de la zone euro. On nous dit qu'on est dans une zone euro où le gros problème, c'est qu'on a libéré la circulation des capitaux et on a fait converger les taux d'intérêt nominaux. Mais ça a créé des bulles spéculatives. Les pays inflationnistes se sont endettés pour moins cher que les pays qui faisaient peu d'inflation. Donc on a créé en fait ici des coûts de financement inégaux entre les économies. Et on peut penser que les économies n'ont pas du tout fonctionné de la même manière, entre autres celles qui étaient dans des situations de boom économique peu productif, liées à des spéculations comme la spéculation immobilière, et ceux qui, au contraire, essayaient de faire de la croissance par des investissements productifs dans l'industrie. Si on regarde depuis l'été 2012, on a une stratégie de sortie de crise qui est engagée. On a créé l'union bancaire, même si on a bien du mal à se mettre d'accord, des mécanismes de surveillance macroéconomique et budgétaire renforcés, la mise en place de l'assistance financière, ce qu'on appelle le MES, des programmes de rachat de dette par la Banque centrale européenne. Et on a quand même les premiers effets. Il faut quand même reconnaître que ce que l'on a fait sur 2011-2012, ça a permis à ce que les taux d'intérêt entre les pays périphériques et les pays du centre se réduisent. On a vu que ça ne suffit pas, mais qu'il y a quand même une réduction ici de ces écarts. Il y a aussi finalement des politiques de réduction des dépenses publiques qui ont fait que les pays ont partiellement réduit leur déficit public. Et on a un début aussi de réduction des écarts de compétitivité, souvent liés, il faut le dire, au fait que dans les économies les plus touchées par la crise, eh bien, on a un effet évidemment négatif sur l'évolution des salaires nominaux. À partir du moment où le taux de chômage augmente, les taux de salaires nominaux ont tendance à stagner, voire à baisser. Le gros problème, c'est que pour l'instant, les effets aussi, c'est la contraction de l'activité économique et la montée du chômage de longue durée. Et ce qu'il faut, c'est essayer d'améliorer la situation ici de cette zone économique. La stratégie de Lisbonne a échoué, hein, c'est qui était la stratégie de faire de la croissance fondée sur les secteurs de la nouvelle économie. On a depuis, je dirais aussi, les années 90, une polarisation industrielle qui s'est renforcée. Il y a des économies qui maintiennent leur industrie, la développent, et d'autres, au contraire, qui déclinent. Et on a cette faiblesse de gouvernance politique. Alors, quelles sont les propositions ? Je vais reprendre les propositions des auteurs du Conseil d'analyse économique. Ils nous disent, si on veut sortir de cette situation, il faut compléter l'architecture de la zone euro dans trois domaines où il y a de fortes externalités. Des fortes externalités, ça veut dire des domaines dans lesquels vous avez des effets qui ne sont pas intégrés dans les prix. Vous connaissez tous les externalités. Si vous décidez ce soir, en rentrant chez vous, de mettre la télévision à fond dans votre appartement et que vous empêchez de dormir tous vos voisins, vous n'allez pas en payer le prix, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer une redevance à vos voisins qui ne peuvent pas dormir. C'est une externalité négative. Bon, par contre, si vous décidez, de nettoyer votre cage d'escalier pour tout le monde, vous n'allez pas faire payer le prix à tous vos voisins, et là, c'est une externalité positive, gratuite. Donc c'est ça, hein, les externalités. Et donc, l'idée, c'est que la zone euro a créé des externalités et qu'il faut trouver des solutions. D'abord, du côté de la régulation des banques, on voit bien qu'il y a une externalité qui est quand même tout à fait anormale, c'est-à-dire que les banques ont gagné de l'argent ici dans le développement de l'activité financière depuis les années 90, mais lorsqu'il y a eu des pertes, eh bien, les pertes, elles ont essayé de les reporter sur les États qui ont dû sauver les systèmes bancaires, ce qu'on appelait « too big to fail », hein, trop gros pour disparaître. Donc, finalement, c'était les citoyens qui devaient, par le biais de l'impôt, financer ici les pertes des banques. Donc, il y a un problème de régulation des banques. On a mis en place une union bancaire pour essayer d'arrêter ces problèmes, et tout particulièrement un cercle vicieux qui devient assez ingérable, c'est que les banques détiennent une part importante des dettes souveraines, et spécialement des dettes souveraines des pays dans lesquels ils ont leur activité. Et donc, par exemple, les banques espagnoles détiennent de la dette souveraine espagnole. La dette souveraine espagnole étant de plus en plus de mauvaise qualité, eh bien, en fait, ça veut dire que les actifs de la banque qui détient de la dette souveraine se dégradent en même temps. Et donc, les banques ont de plus en plus de mal à se financer puisqu'elles sont considérées comme ayant des bilans de mauvaise qualité. Et donc, on a un cercle vicieux entre l'augmentation des dettes souveraines et la dégradation de la situation financière des banques. Et s'il faut aider les banques en augmentant les dettes souveraines, à ce moment-là, on est dans une situation qui est une impasse totale. Donc, il y a l'idée qu'il faut créer à la fois des mécanismes de surveillance bancaire. C'est ce qui a été mis en place avec le mécanisme unique de surveillance des banques. Mais il faudrait aussi un mécanisme de résolution des crises bancaires. Et ça, c'est aujourd'hui en discussion et l'Allemagne est très prudente sur des mécanismes qui consisteraient à mutualiser ici le financement de pertes lorsque des banques sont en difficulté. Mais en tout cas, il faut trouver des mécanismes pour gérer la liquidation des banques en difficulté et donc transférer, par exemple, les activités d'une banque qui est en cessation de paiement vers soit une structure provisoire, soit une autre institution financière qui pourrait reprendre la partie des activités viables d'une banque qui est en train de faire faillite. Mais il faut arriver à financer ces mécanismes. Si on veut arriver à avoir un mécanisme de résolution des crises bancaires, il faut le financer. Pour ça, il faut un fonds de garantie des dépôts. Et l'idée qui est avancée, c'est qu'il serait bien d'avoir un fonds de garantie des dépôts qui soit préfinancé par les banques. C'est-à-dire que les banques, quand elles sont dans une situation où tout va bien, elles soient obligées, en fait, de contribuer à un mécanisme de garantie des dépôts. Et on pourrait même avoir un mécanisme de garantie des dépôts qui fasse que le taux augmente quand vous êtes dans une période d'expansion, c'est-à-dire où les banques sont assez en situation favorable. Et au contraire, on leur demanderait un taux de garantie des dépôts plus faible quand on est dans une situation plus difficile. Et donc ce fonds-là, qui aurait ici un profil conjoncturel, pourrait assurer le financement des mécanismes de résolution des crises bancaires. À cela, il faut ajouter le fonds de garantie des dépôts des clients, un grand débat, en tout cas avancer sur un mécanisme unifié de garantie des dépôts pour les clients des banques de toute la zone euro. Côté gouvernance budgétaire, je vous ai dit, le grand problème, c'est qu'on a une politique monétaire commune et on a des politiques budgétaires nationales. Les propositions du Conseil d'analyse économique, c'est de mettre en place un comité budgétaire européen qui serait indépendant et qui coordonnerait les comités budgétaires nationaux. Alors, vous savez qu'on a ce comité a été créé cette année en France et est censé dire si les prévisions du gouvernement sont réalistes. Quand le gouvernement annonce un certain taux de croissance et un certain niveau d'équilibre des finances publiques, eh bien, on est ici avec un comité qui doit dire si ces chiffres sont réalistes ou pas. Et la thèse du Conseil des économiques, c'est de dire ce qui serait utile, c'est d'avoir un comité budgétaire européen qui supervise tous les comités budgétaires nationaux et avec un processus de négociation. Lorsque ce comité budgétaire européen estime qu'un pays produit des chiffres irréalistes sur sa situation budgétaire à venir, eh bien, qu'il y ait des mécanismes de correction qui soient prévus par ce comité budgétaire européen pour aller vers les chiffres réalistes que les comités budgétaires ont validés. Donc, c'est un peu, évidemment, une mise sous tutelle des gouvernements par des comités budgétaires qui regardent si ce qu'annonce leur ministère de l'économie est réalisable par rapport aux données économiques. Et à ce moment-là, évidemment, il y aurait par exemple des mécanismes dits de préqualification qui vous permettraient, si vous avez des besoins de financement, de les obtenir automatiquement si le comité budgétaire vous a préqualifié. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est eh bien, un gouvernement qui fait un certain nombre d'efforts mais qui a un déficit budgétaire malgré tout à financer serait préqualifié automatiquement et il pourrait ici trouver un financement qui pourrait être par un fonds qui alimenterait ici les déficits budgétaires européens. Donc le mécanisme n'est pas seulement de la surveillance pour vous obliger ici à respecter à peu près des données réalistes, c'est aussi un mécanisme qui faciliterait des financements des gouvernements par ces mécanismes de préqualification qui seraient validés par les comités budgétaires. Et l'idée aussi serait de démocratiser ce contrôle budgétaire au niveau européen. Et là, ça veut dire réformer le traité afin qu'on ait une sous-chambre du Parlement européen qui représenterait la zone euro, puisqu'on a un Parlement européen. Il faudrait qu'à l'intérieur de ce Parlement européen, il y ait une sous-chambre du Parlement de la zone euro qui voterait en bloc sur les propositions de fonds d'émission de dette du comité budgétaire européen. Donc l'idée, c'est quand même de créer un mécanisme un peu démocratique où les parlementaires européens, il y aurait une sous-chambre zone euro qui attribuerait ici au comité budgétaire européen la possibilité de lever des fonds sur les marchés financiers de manière à financer de manière communautaire les déficits budgétaires. Et là où il y a des États qui sont en difficulté, qui doivent emprunter cher, bien évidemment, on aurait un comité budgétaire européen qui, lui, emprunterait pour tous les États. Et à partir du moment où les États seraient préqualifiés par ces comités budgétaires, ils auraient accès à ce financement européen à un taux bien moins élevé que le taux lorsqu'ils doivent emprunter au niveau national. Troisième volet pour le Conseil des analyses économiques, il faut aussi des politiques de croissance. Pour ça, eux insistent beaucoup sur les réformes structurelles de croissance. Et là, on a un raisonnement économique qui est assez courant, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à faire des réformes structurelles ? C'est qu'elles sont politiquement coûteuses. Et pourquoi elles sont politiquement coûteuses ? Ça, on le sait aussi très bien. C'est que souvent, les gains à attendre d'une réforme structurelle sont importants. On sait que pour l'ensemble de l'économie, ça va générer de la croissance, mais c'est diffus. Individuellement, on ne va pas gagner grand-chose. Donc, ceux qui seraient gagnants, en fait, c'est le plus grand nombre des citoyens, ne sont pas prêts à s'engager pour faire une réforme structurelle, parce que pour eux, ce que ça va leur apporter dans leur budget mensuel, ça va leur paraître très très faible. Mais ça va être plutôt pour l'ensemble des citoyens, si on a une croissance économique qui profite à toute l'économie. Par contre, quand on fait des réformes structurelles, il y a toujours des perdants qui, eux, sont en nombre limité, mais voient des pertes importantes pour eux. Si on fait une réforme, par exemple, sur l'ouverture à la concurrence pour la profession de chauffeur de taxi, on peut imaginer que la course des taxis sera moins élevée, donc tous, on va payer un peu moins cher notre course de taxi. Est-ce qu'on est prêt à descendre dans la rue pour que la course moyenne de taxi nous coûte moins cher ? Non. Ce n'est pas un élément de notre vie quotidienne, absolument. Par contre, les chauffeurs de taxi, si on propose d'ouvrir à la concurrence leur profession, ils sont tous dans la rue et ils vont tous l'empêcher. Et donc, c'est ça, le problème des réformes structurelles. On sait que toute réforme structurelle, les gains sont diffus et sont très avantageux pour l'ensemble de la société, mais pas suffisants pour qu'on les soutienne, et que les perdants, eux, sont en nombre limité, mais c'est très concentré et ils s'organisent très, très vite pour empêcher la réforme structurelle, ce qui est assez logique. C'est ce qui explique, par exemple, des formes de protectionnisme aux États-Unis où les céréaliers, les producteurs de sucre, les producteurs de coton américains sont très, très efficaces, financent les lobbies politiques pour avoir ici un protectionnisme qui n'est pas avantageux du tout pour les Américains qui payent plus cher leur sucre, leur coton et leurs céréales. Mais évidemment, c'est d'abord un gain très concentré sur un groupe qui, lui, est très, très actif et qui finance la plupart des partis politiques. Donc, on a cette difficulté à faire des réformes structurelles. Donc il faudrait sortir de cette situation. Et il y a une proposition qui est faite par le Conseil d'analyse économique, c'est qu'on pourrait le faire sur le marché du travail. Et il propose de créer une relation positive entre le degré de protection de l'emploi ici et le fonctionnement du marché du travail pour ceux qui recherchent un emploi. Il propose une réforme où on aurait un contrat de travail européen qui garantirait plus de flexibilité aux entreprises et plus de sécurité du parcours d'emploi pour les salariés. Donc on aurait ce contrat de travail européen qui serait un CDI avec des critères de séparation plus flexibles, plus faciles entre l'employé et l'employeur, et une taxe sur les licenciements, un bonus ou malus. Une entreprise qui ne licencie pas aurait des bonus, et une entreprise qui licencie beaucoup paierait des malus de manière à ce qu'elle internalise le coût social de ses décisions. Et ce contrat de travail ouvrirait automatiquement des droits à une assurance chômage européenne. ce qui viendrait s'ajouter aux indemnités de chômage nationales. Donc en fait, on pourrait avoir des indemnités de chômage à la fois nationales et européennes, et les employeurs auraient l'obligation légale d'offrir le choix à tout nouveau salarié entre le contrat européen ou le contrat national. Si le contrat européen n'est pas adopté, dans ces cas-là, il n'y a pas de déboursement pour financer l'assurance chômage européenne. Et si le contrat européen est adopté, à ce moment-là, l'entreprise devra bien évidemment contribuer au financement de cette assurance chômage européenne. C'est un mécanisme en fait qui vise à, sur la base un peu d'un volontariat et d'une négociation entre l'employeur et l'employé, arriver à commencer à nous faire évoluer doucement du contrat de travail national vers le contrat de travail européen. Grande discussion, est-ce que c'est finalement un processus extrêmement complexe et irréaliste ou est-ce que c'est un mécanisme qui serait l'embryon de la constitution du marché du travail européen ? C'est une des propositions pour arriver à une zone euro que l'on pourrait pérenniser. Et si ce type de réforme incitatif fonctionne sur le marché du travail, ils disent pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire la même chose sur les activités des seniors, sur l'éducation, sur la recherche, sur la mobilité géographique ? À chaque fois d'avoir un programme d'incitation, vous avez le choix entre un contrat ou un système national et un système européen. Vous négociez et vous avez des avantages liés à votre système national, vous en avez d'autres dans le système européen, mais on essaye de faire que les citoyens commencent à aller vers des contrats européens, là où ils sont essentiellement pour l'instant liés par des contrats nationaux. C'est une des propositions ici du Conseil d'analyse économique. Et il y a toute une discussion sur les mesures de transition qu'il faut instaurer pour arriver à aller vers ce système où on a à la fois le système bancaire, budgétaire et les réformes structurelles à mettre en œuvre. Ils insistent évidemment sur le mécanisme de restructuration des dettes publiques, qui est le grand problème à résoudre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des mécanismes d'échange des dettes publiques en une dette communautaire. C'est évidemment quelque chose qui est compliqué. Cette restructuration, ça suppose qu'il y ait des échanges, alors qui peuvent être plus ou moins limités, temporaires ou permanents, entre des dettes publiques nationales et des dettes européennes. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait créer une agence européenne de la dette, qui pourrait d'ailleurs être intégrée au mécanisme européen qui a déjà été mis en place, le MES. Et cette agence pourrait acquérir sur des marchés secondaires des obligations souveraines nationales contre des obligations conjointes de la zone euro. Donc ils disent que c'est un mécanisme qui permettrait de restructurer en douceur les dettes publiques en transférant une partie des dettes souveraines nationales vers, ici, des dettes souveraines émises en euros. Alors, il y a plein d'idées qui sont émises sur comment émettre des dettes en euros, enfin des dettes de la zone euro, qui viendraient en partie prendre le relais des dettes nationales. Est-ce qu'il faut mutualiser, par exemple, toutes les dettes nationales qui sont jusqu'à 60% du PIB ? C'était une des propositions qui a été faite, puisque là, on respecte en fait ce qui était le critère de Maastricht initial. Donc, on mutualise pour tous les pays de la zone euro leurs dettes jusqu'à 60%. Il y en a d'autres qui disent non, on pourrait faire autre chose, on pourrait faire des eurobonds. Les eurobonds, c'est, on aurait à ce moment-là une partie qu'on pourrait mutualiser et une autre qu'on pourrait ne pas mutualiser. Alors, il y a ceux qui disent il vaudrait mieux laisser la dette jusqu'à 60% dette souveraine nationale parce qu'elle inspire confiance et il faudrait mutualiser avec des conditions de remboursement tout ce qui est au-delà de 60%. Et donc, il y a des débats sur, on va créer des blue bonds et des red bonds. Les blue bonds qui seraient des bons sur lesquels on a des garanties fortes et les red bonds qui seraient des bons sur lesquels on prendrait beaucoup plus de risques. Et chaque gouvernement pourrait mettre des blue bonds et des red bonds pour essayer de mutualiser de la dette. Bien évidemment, la question, c'est quand même que même si on essaye de restructurer les dettes, il faut qu'on arrive à renforcer la stabilisation budgétaire européenne. Et là, il y a vraiment des voies différentes. Soit on fait simplement de la coordination budgétaire. Au fond, chacun décide ce qu'il veut faire et puis on essaye après de coordonner les décisions de chaque gouvernement pour les rendre compatibles. Soit il y a la voie fédérale, et ce qui est un peu, à mon avis, le sujet crucial aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on veut aller vers un équilibre budgétaire ici au niveau de l'ensemble de la zone. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudrait qu'on aille vers des ressources propres avec la possibilité de déséquilibre cyclique au niveau de la zone. Donc, on a là encore une possibilité. Soit on décide que tous les États doivent automatiquement aller à l'équilibre budgétaire et il n'y a que le budget communautaire qui peut être déficitaire quand on est en récession et excédentaire quand on est en expansion. Donc, en fait, contrainte obligatoire, tous les États ont un équilibre budgétaire, leurs recettes doivent être égales aux dépenses, et c'est on transfère au budget européen la responsabilité de soutenir la conjoncture de la zone, avec l'idée que ce budget européen, bien évidemment, lui sera plus facile à financer, puisque au lieu d'avoir un mauvais pays qui émet de la dette, ça serait la zone qui émettrait de la dette. Et pour éviter que ce soit un budget toujours déséquilibré, eh bien, c'est un budget qui devrait être excédentaire dans les périodes d'expansion économique, de manière à avoir une réserve qui lui permette de commencer à financer le déficit en période de récession. Bien évidemment, c'est purement pour l'instant des débats entre économistes, et vous imaginez qu'il y a des pays qui n'ont pas du tout envie de voir mutualiser ici ces déficits à l'échelle de la zone. Alors, je dirais, là, on est sur des pistes, et on verra que certaines ne sont pas loin, d'ailleurs, de ce qui commence à se faire. Mais avant, il faut revenir aussi à ceux qui sont... donc ça, c'était mes solutions. À ceux qui sont beaucoup plus pessimistes, et là, je vous mets une phrase de Jacques Sapir, hein, la monnaie unique européenne, qui fut à son origine source de tant d'espoir, n'a tenu aucune de ses promesses. Elle meurt aujourd'hui de l'échec du projet politique qui lui avait donné naissance, le fédéralisme furtif, et de la divergence des dynamiques économiques des pays membres, divergence exacerbée par l'Allemagne. Jacques Sapir n'est pas le seul, hein, il était représentatif, et c'est pour ça que je pensais que c'était intéressant que vous ayez son point de vue. Si vous prenez Christian Saint-Étienne, qui a publié en 2011 « La fin de l'euro » ou Alain Cotta « Sortir de l'euro ou mourir à petit feu », c'est des analyses comme celle de Jacques Sapir. Hein. Donc lui, c'est « Faut-il sortir de l'euro ?» Alors, cette thèse, je dirais, assez pessimiste, repose, je pense, sur une analyse où il y a des points de convergence avec ce que j'ai vu avant. Hein. Ces auteurs disent que la crise de l'euro, ça recouvre trois types de crises, en fait. Il y a d'abord une crise de la dette, c'est-à-dire la monnaie unique a été un vecteur de montée des dettes car elle a imposé aux pays de se financer sur les marchés financiers. C'est-à-dire que ce qui est reproché à l'euro, là, c'est l'impossibilité de recourir aux avances de la banque centrale, comme on le faisait jusque-là par le biais du trésor public, c'est-à-dire que dans le système où on avait une monnaie nationale, vous pouviez avoir bien évidemment le trésor qui demandait une avance à la banque centrale et qui se finançait directement par création monétaire. C'est évidemment quelque chose qui est impossible dans le traité de Maastricht. La Banque centrale européenne ne peut pas faire des avances directement aux trésors nationaux pour qu'ils financent leur déficit. Donc, il y a l'idée que ce que l'on a fait en France, d'ailleurs, ça a commencé la mutation avec une loi de 1973, lorsqu'on a supprimé ce qu'on appelait le plancher obligatoire de dette publique dans le bilan des banques. C'est-à-dire qu'on obligeait les banques à détenir un certain plancher d'obligations de l'État. Donc elles étaient obligées d'acheter des obligations, ce qui était une manière pour l'État de placer automatiquement ses obligations. Et c'est devenu illégal en 1973. Et on n'a pas cessé d'essayer de séparer le financement de l'État de la création monétaire, qui au départ est totalement lié. Enfin, s'il y a autant de gens qui ont en tête l'idée de la planche à billets, c'est une très très vieille histoire où, en effet, on avait l'État qui pouvait demander des avances directement à la Banque de France et donc avoir des avances en monnaie fiduciaire, qui lui permettait, par exemple, de payer les fonctionnaires, ce qui était assez courant dans les années 1920, où l'État français, très souvent, avait bien du mal à payer ses fonctionnaires et avait besoin des avances de la Banque de France pour honorer simplement les traitements. Donc, on est sur cette crise de la dette qui viendrait du fait qu'on a coupé ce système de relations entre les banques centrales et les trésors. Et à ce moment-là, avec la monnaie unique, on s'est retrouvé livré au marché financier Et en plus, avec un taux de change unique pour la zone euro qui a créé une dégradation de compétitivité inexorable pour les économies qui étaient sur des produits fortement concurrencés, qui avaient besoin plutôt d'un taux de change attractif pour vendre leurs produits. Et donc, ces pays qui ont été en difficulté ont été amenés à soutenir leur activité économique en faisant du déficit budgétaire. Mais comme ils ont fait du déficit budgétaire, ils se sont endettés sur les marchés financiers. Et en s'endettant sur les marchés financiers, ils ont accéléré le processus qui nous a conduit à la crise financière. Donc, Jacques Sapir nous dit, vous voyez, c'est la mise en place de l'euro qui est la source du mal qui nous a amené inexorablement à une dépendance qui faisait que ces pays ne pouvaient pas faire autrement. Ils avaient une activité économique qui se ralentissait du fait, ici, d'une surévaluation de l'euro. Ils ne pouvaient pas se financer par l'accès à leur banque centrale. Donc, ils se sont endettés sur les marchés financiers. Et ça nous conduisait inexorablement, un jour ou l'autre, à une crise financière. Deuxièmement, la thèse qui est souvent défendue par ces auteurs pessimistes sur l'avenir de la zone euro, c'est de dire qu'il y a une véritable crise structurelle de croissance. L'introduction de l'euro fait que, en fait, la croissance de la zone euro a été régulièrement inférieure à celle des autres pays développés depuis 1999. D'abord parce que l'euro a été surévalué, il a été conçu sur le modèle du mark allemand. Deuxièmement, parce que les taux d'intérêt imposés par la BCE ont été trop élevés jusqu'à une date récente, et donc le coût du financement était plus élevé dans la zone euro à cause du refinancement par les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Et enfin, parce que ce système était totalement inadapté à une zone économique qui était hétérogène. On ne faisait pas les mêmes taux d'inflation et donc on n'avait pas les mêmes besoins en matière de politique monétaire. Troisièmement, ces auteurs aussi nous disent qu'on a une crise des institutions qui encadrent la monnaie unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernance de la zone euro, il n'y a pas de gouvernement économique de cette zone et il y a une absence de puissants mécanismes de transfert à l'intérieur de la zone, puisque les transferts sont prohibés par les différents traités. On ne peut pas venir au secours d'un pays qui serait en déficit. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est alors pourquoi, si c'était aussi négatif, pourquoi est-ce qu'on a été faire une monnaie unique alors qu'il n'y avait pas d'avantage? Et l'idée, là, c'est de dire, c'est en fait une idée qui a été développée plusieurs fois. Jacques Sapir revient en 1977, quand le président de la Commission européenne, qui était Roy Jenkins, avait fait une proposition de mise en place d'un budget communautaire d'un montant de 10% du PIB, qui serait le système qui accompagnerait la mise en place d'une monnaie unique. Et donc, au départ, ce qui est assez intéressant, ce que dit Jacques Sapir là-dessus, c'est dès le départ, on savait très bien que si on faisait la monnaie unique, il fallait aussi qu'il y ait le budget communautaire avec. Il fallait qu'on ait marché sur ses deux jambes. Grosso modo, il faut, si vous avez une monnaie unique, vous devez avoir un budget communautaire parce que vous devez mutualiser vos dettes. Vous ne pouvez pas laisser vos dettes à un niveau national avec une monnaie commune. Et quand on regarde comment on a évolué, on s'aperçoit qu'en fait, on est passé par le système monétaire européen en 1979. On avait créé une unité de compte européenne, l'écu, qui était ici une monnaie de compte, monnaie panier. Et pourquoi ça n'a pas tenu tout ça? Et Jacques Sapir nous dit, là-dessus, c'est clair, c'est la libération des marchés financiers qui a été à l'origine du problème. On n'a pas réussi à maintenir les taux de change dans les marges qui avaient été fixées par le système monétaire européen parce que les banques centrales n'ont pas pu résister aux mouvements de spéculation qui se sont engagés lorsque les marchés financiers ont été libérés. Et le système monétaire européen a éclaté en 1993. Et depuis, avec cet éclatement, la seule solution qu'on a trouvée pour stabiliser les mouvements de taux de change, ça a été d'aller vers la monnaie unique. Et donc, on a choisi de trouver quelque chose qui serait la stabilité des taux de change avec la libération des marchés financiers. Il nous dit, pour rendre compatible libération des marchés financiers et stabilité des taux de change, on est parti sur la solution de la monnaie unique. Et c'est cette solution qui a été développée, finalement, qui contient quelque chose qui n'a jamais été véritablement présenté, qui serait des États-Unis d'Europe, sur lesquels, pour lui, les citoyens n'ont jamais apporté une adhésion explicite. Et tout ce qu'on a réussi à faire, c'est à faire de la divergence entre les pays de la zone. Il dit, l'objectif était de préparer une Europe fédérale. On peut parler d'une hypothèse fédéraliste implicite et cachée. C'est ce qu'on appelle le fédéralisme furtif. C'est-à-dire ceux qui voulaient faire ça à partir de Delors avaient une idée fédéraliste et ont essayé en fait, en proposant la monnaie unique, de faire avancer vers ce qui était leur conception fédérale, en sachant que ça serait difficile à présenter directement à l'ensemble des citoyens européens. Donc c'est la thèse ici de Jacques Sapir, c'est-à-dire c'était un projet politique qui a servi ici à alimenter ce projet d'euro, et en même temps avec une conviction forte, idéologique et économique, qu'il fallait libérer les marchés financiers. Donc on a une critique de ce mécanisme. Et quand on regarde les voies de sortie qui sont évoquées par ces auteurs que j'évoquais, il y en a trois. La première, celle qui d'ailleurs très longtemps a eu la préférence de Jacques Sapir, c'est de dire qu'il faut revenir à une cohabitation entre monnaie nationale et monnaie commune. C'est-à-dire qu'on ne va pas se séparer de l'euro, mais on va avoir en même temps le retour aux monnaies nationales, chaque pays va reprendre sa monnaie nationale, et on va avoir l'euro, qui sera la monnaie de relation entre la zone euro et le reste du monde. C'est très joli sur le papier, c'est quand même assez compliqué à faire, puisqu'en fait, ça veut dire quoi ? Si vous faites, si vous passez de la monnaie unique à la monnaie commune, simplement, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez forcément devoir réglementer les marchés financiers, puisque ce qui a fait éclater le système de monnaie commune, c'était l'écu. L'idée d'une monnaie commune, en même temps qu'on a notre monnaie nationale, on l'a déjà connue, c'est le système monétaire européen. Ça ne peut pas tenir si vous avez des marchés financiers qui peuvent spéculer avec des moyens bien supérieurs aux réserves des banques centrales. Donc, en fait, la thèse de Jacques Sapir, c'est qu'il faut revenir à une forte réglementation des marchés financiers qui limiteront la spéculation. À ce moment-là, les États s'émancipent des marchés financiers. Et on va avoir des mécanismes nationaux. Chaque pays ayant sa monnaie nationale va pouvoir revenir à des planchers minimum d'effets publics dans les bilans des banques. Et donc, chaque pays va pouvoir financer son déficit budgétaire en obligeant les banques à acheter une partie des obligations qu'il va émettre, qui seront réglementairement obligatoires à détenir dans les bilans de chacune des banques. Le système d'avant 1973 qui existait en France. Donc, ils nous disent que c'est la solution. Deuxièmement, il faut qu'on ait des taux de change stables entre les monnaies nationales et la monnaie européenne. Pour ça, ils nous disent qu'il faudrait que les fixer et on les réajusterait tous les ans. Il y aurait un processus de réajustement, ici, des taux de change entre chaque monnaie nationale et la monnaie européenne. Et la monnaie commune, donc, ça servirait simplement à assurer l'ensemble des transactions commerciales et financières avec les pays en dehors de la zone. Cette monnaie serait cotée sur les marchés financiers. Et dans des cadres qui pourraient limiter la spéculation, donc c'est pas très très bien comment on peut limiter la spéculation sur un euro qui serait coté sur les marchés financiers. Et la Banque Centrale Européenne aurait pour rôle d'orienter le cours de cette monnaie commune en fonction de ce qu'on estimerait être le bon taux vis-à-vis du dollar, du yen et du yuan. Deuxième solution de ceux qui pensent que l'euro est condamné, c'est de dire on va avoir une scission entre euro du Nord et euro du Sud. Alors ça me paraît encore plus complexe comme système. C'est on crée une coopération entre les pays d'Europe du Sud, Italie, Espagne. Je ne sais pas très bien si la France est dans cette Europe du Sud, dans la thèse de ses auteurs. Et à ce moment-là, on isolerait un peu une Europe du Nord autour de l'Allemagne et on aurait deux euros. On aurait un euro du Nord et un euro du Sud. Et ça me laisse sceptique parce que c'est... Pourquoi est-ce qu'un euro, ça serait une impasse et que deux euros, ça marcherait ? Alors que c'est à nouveau des euros dans une zone et avec de l'hétérogénéité dans chacune des zones. Donc je pense que ce raisonnement-là, souvent d'ailleurs, n'est pas beaucoup développé parce que il me semble que c'est quand même une transposition de toujours avoir des monnaies uniques sur des zones qui auront de l'hétérogénéité chacune. Je ne pense pas que la France et Chypre vont être des économies qui vont immédiatement converger. La troisième option, c'est la sortie de l'euro. Et la sortie de l'euro, alors, je ne la vois pas très bien négociée. Évidemment, ce qui inquiète le plus, c'est, imaginons qu'on ait un pays qui soit hostile à l'euro, on ait un parti politique hostile à l'euro qui prenne le pouvoir dans un des pays de la zone euro. Et là, à ce moment-là, on peut avoir une sortie violente qui provoque des réactions sur les marchés financiers, qui ferait que tous les pays fragiles commenceraient à s'écrouler les uns après les autres. Et donc c'est une thèse de la sortie désordonnée. Je ne vois pas très bien quelle est la sortie ordonnée. Il y a des discussions sur une sortie ordonnée de l'euro. Ça me paraît très, très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué ? Pour une solution simple, c'est que tous les systèmes bancaires et financiers de la zone euro ont acheté de la dette des autres pays. Donc, les banques françaises détiennent de la dette espagnole, de la dette italienne, etc. Et donc, toutes les banques sont devenues totalement dépendantes du fait que les pays de la zone euro honorent ici leurs engagements. Et si on avait un pays qui sortait comme ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre système bancaire qui est totalement imbriqué et qui fait que si un certain nombre de pays font défaut, eh bien, c'est toutes les banques qui restent dans la zone euro qui vont se retrouver en difficulté. Et là, on pourrait très bien avoir un système où ça devienne totalement ingérable pour sauver les systèmes bancaires. Mais il ne faut vraiment pas oublier que BNP Paribas, Crédit Lyonnais, Société Générale, ils détiennent en fait de la dette de tous les pays de la zone euro. Donc sortir de la zone euro quand tout le monde détient mutuellement les créances de l'autre, si vous êtes réaliste, c'est pas possible. C'est possible qu'au début, si chacun détenait que les créances uniquement de son État. Mais comme on détient des créances sur tous les États de la zone, la sortie me semble extrêmement compliquée. Bon, résultat, vous voyez que je suis un peu sceptique sur les trois grands projets. Créer une monnaie commune parallèle, un euro du Nord, un euro du Sud, ou une sortie ordonnée. Quand on regarde, bien, on peut être optimiste ou pessimiste, ça dépend si vous aimez le verre à moitié vide ou les verres à moitié plein. On a quand même fait pas mal de chemin. Alors, je n'ai pas tellement de temps, je vais juste évoquer les points sur lesquels on a quand même beaucoup avancé. On a commencé à faire une construction de l'union bancaire. On a, en décembre 2012, les ministres des Finances des 27 se sont mis d'accord sur une supervision unique des banques de la zone euro, qui est confiée à la Banque centrale européenne. Et cette supervision intégrée sera effective en mars 2014. C'est-à-dire que là, on commence à dire qu'on va avoir un mécanisme efficace de surveillance des banques. Le problème, c'est qu'on sait qu'il faut aller plus loin et que là-dessus, dès qu'on est sur la garantie des dépôts, et surtout un mécanisme de gestion des crises. En fait, c'est ce sur quoi on n'est pas d'accord avec les Allemands, c'est qu'il faut que dans ce système bancaire européen, il y ait un mécanisme de gestion des crises, et pour ça, il faut qu'il y ait un fonds européen qui permette de financer la prochaine crise bancaire. Et ça veut dire mutualiser ici des ressources pour gérer la prochaine crise bancaire. Donc il faut de la supervision, de la garantie et de la gestion de crise. Et sur les deux autres points, la garantie des dépôts et la gestion de crise, il n'y a pas d'accord actuellement. Donc on n'a qu'un petit bout, pour l'instant, qui est réalisé sur le côté union bancaire. Sur les mécanismes de surveillance macroéconomique, alors là, ça serait vraiment long je pense que je pourrais plutôt vous mettre pratiquement un tableau si vous aviez besoin là-dessus. On est passé, après le pacte de stabilité et de croissance et ses échecs, à un assouplissement 2005 du pacte de stabilité et de croissance. En décembre 2011, on est passé à ce qu'on a appelé le six-pack, qui a été adopté par les 27 États membres, avec des changements essentiels dans le renforcement des sanctions et des procédures pour déficit excessif. Mais en même temps aussi, c'est là qu'on a commencé à discuter de la mise en place de moyens qui sont non conventionnels pour aider les États qui avaient des difficultés. Ensuite, le 1er janvier 2013 est entré en vigueur le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, le TSCG, qui est appelé couramment le pacte budgétaire européen. Et le 5 mars 2013, on est passé au TUPAC, qui a été entériné par le Conseil de l'ECOFIN, avec des nouvelles règles qui vont entrer en vigueur à l'automne 2013, qui visent à éviter des nouvelles crises de dette souveraine et à créer de nouveaux mécanismes de solidarité. Donc, j'ai l'impression que sur les politiques budgétaires nationales, la coordination, entre guillemets, est peut-être un des points qui a le plus avancé. Ensuite, on a les problèmes d'aide financière, et là, je pense que c'est difficile. On a eu un fonds européen de stabilité financière qui a été mis en place en 2010. On est passé au mécanisme européen de stabilité. Je ne développerai pas, tout simplement parce que, pour l'instant, le mécanisme européen de stabilité, on voudrait le doter d'à peu près 700 milliards d'euros. Et si vous prenez le FMI, les derniers chiffres du FMI nous disent qu'il faut absolument 2000 milliards d'euros pour essayer d'assainir la situation des banques. Donc voilà, on a un mécanisme d'aide financière à 700, il faut 2000, c'est-à-dire qu'on a à peine le tiers. Donc pour l'instant, le mécanisme, il n'est pas au niveau du financement qui est nécessaire pour arriver à un processus d'assainissement des banques. Je pense que là, on est encore sur une situation qui reste très fragile. La transformation du rôle de la BCE, j'ai l'impression que c'est peut-être une des choses qui avance aussi assez facilement, tout simplement parce que Mario Draghi, puis les gouverneurs de banque centrale, sont des gens assez pragmatiques. Quand ils voient que la crise arrive, c'est-à-dire que l'incendie commence à se rapprocher d'eux, ils ont tendance tout de suite, entre guillemets, à arroser, c'est-à-dire à dire, bon, allez, on va racheter sur le marché secondaire. C'est assez amusant, enfin. Vous voyez qu'on rachète les obligations souveraines sur le marché secondaire pour ne pas les acheter sur le marché primaire. Donc on n'aide pas directement les États, mais sur les marchés financiers, on rachète. Et donc en rachetant, eh bien, on crée bien évidemment une demande qui fait que ces pays-là n'ont pas une crise de liquidité liée au fait qu'ils ne peuvent plus se procurer de liquidité en vendant leurs obligations. Donc je pense qu'on a un début de transformation du rôle de la Banque Centrale Européenne, mais c'est évidemment un facteur de tension très important avec les Allemands. Là-dessus, on est sur un système non conventionnel qui est pour l'instant très peu validé. Ceci dit, moi, à mon avis, il reste qu'on est très très faible actuellement sur un consensus sur une stratégie de croissance. Et je crois qu'il n'y a pas de consensus sur une stratégie de croissance européenne. Or, si on veut pouvoir payer nos dettes, il faut créer du revenu. Créer du revenu, ça veut dire faire de la croissance économique. La thèse aujourd'hui, c'est de faire des réformes institutionnelles. Et je crois que c'est en fait là le vrai problème. C'est qu'on sait qu'en effet, il y a des réformes à faire si on veut faire de la croissance économique, mais comment on peut avoir des décisions démocratiques à partir du moment où ces réformes sont souvent discutées au niveau intergouvernemental. Et que le grand problème, c'est que toute l'Europe s'est largement développée sur des discussions intergouvernementales. On a des rendez-vous où on discute, et je pense que ça a créé une distance énorme entre les citoyens et ceux qui prennent des décisions. L'idée qu'il y a à la fois des fonctionnaires européens et des politiques qui se rencontrent pour prendre des décisions, et un Parlement européen qui joue un rôle là-dessus qui est très très faible. Et donc, je pense qu'il y a un livre qui peut être très intéressant là-dessus, c'est Michel Aglietta et Thomas Brandt, Un New Deal pour l'Europe, qui, eux, insistent beaucoup sur l'idée du contrat social qui est derrière la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie, c'est un bien commun, derrière ce bien commun, c'est un contrat social, et donc ce n'est pas seulement un mécanisme qui permet de faire des échanges. En fait, on accepte un destin collectif avec une monnaie, et qu'un destin collectif, ça veut dire aussi qu'on accepte de gérer des dettes, puisque la monnaie est créée quand on émet de la dette. Eh bien, on accepte en commun ici de la responsabilité sur les dettes qui sont émises en contrepartie de la monnaie unique. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même à la fois un meilleur fonctionnement démocratique à l'échelle européenne, et ça veut forcément que le Parlement européen n'a pas toutes les fonctions qui seraient nécessaires de prise de décision. Et de l'autre côté, il n'y a pas un mécanisme de gouvernance. C'est-à-dire la question, par exemple, la Commission européenne avait mis l'idée qu'il serait peut-être bien que le président de la Commission soit élu au suffrage universel. Il faudrait mettre de la démocratie et de la gouvernance pour arriver à avoir un projet qui soit durable au niveau de l'euro. Voilà, j'espère que tout ça a été à peu près clair. Alors, s'il y a quelques questions, on a quand même, oui, on a 10 minutes. Alors, d'abord, l'analyse économique, il y a eu un débat, ça c'est amusant, qui est en effet, est-ce qu'il faut faire rentrer beaucoup de gens dans l'appartement ou pas ? Il y avait deux thèses qui s'opposaient chez les économistes, ceux qui étaient sur la convergence exogène et ceux qui étaient sur la convergence endogène. C'est-à-dire la convergence exogène, c'est qu'il fallait d'abord avoir convergé pour rentrer dans la zone euro. Et donc, il y avait des conditions. On ne rentrait pas dans la zone euro si on respectait. Et donc, il y avait des procédures. Alors, je vous signale quand même que sur ce point-là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on se bousculait jusqu'en 2010 pour rentrer dans la zone euro et pour satisfaire les conditions. Et qu'à ma connaissance, je crois qu'aujourd'hui, le seul pays qui frappe encore à la porte de l'euro, je crois que c'est la Lettonie. Il n'y en a plus qu'un seul. Et tous les autres qui étaient dans le processus justement pour rentrer ne veulent plus. Se sont arrêtés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont estimé que le renforcement des conditions était finalement ce qu'ils allaient perdre pour rentrer dans cet appartement où on allait leur proposer un menu assez frugal, était peut-être pas suffisant. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça se précipitait jusqu'en 2010 pour rentrer et on a certainement facilité l'entrée des pays à partir de conditions. En fait, ce qu'on pourrait dire, les conditions étaient un peu trop laxistes pour rentrer dans cette zone euro. Et les pays y voyaient plus d'avantages que d'inconvénients à rentrer dedans. Et que là, on a un basculement qui vient de se produire avec le renforcement des conditions. Le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul pays qui, dans l'immédiat, souhaite encore rentrer dans l'euro, les autres pays de l'Union européenne ne le souhaitent pas. Alors, donc, il y avait l'idée qu'il fallait que ce soit que des pays qui avaient déjà convergé qui rentrent. Et à mon avis, en effet, on a été un peu laxiste là-dessus. Et il y avait une autre thèse, c'était de dire non, c'est pas grave, il vaut mieux que les pays soient assez différents, parce qu'en fait, le fait de les faire rentrer tout de suite va faire accélérer leur convergence. Le fait qu'ils vont de les faire rentrer dans l'euro leur permettra de réaliser en 5 ans ce qu'ils auraient mis 10 ans à faire s'ils étaient restés à l'extérieur de l'euro. Alors c'était invérifiable initialement, puisqu'il fallait le tenter pour le voir. Et après, je pense que ceux qui étaient partisans de la convergence endogène vont vous dire « Attention, ce n'est pas de leur faute, c'est la crise financière qui a tout arrêté. Autrement, ça aurait peut-être marché. » Donc, très compliqué sur la thèse économique. Maintenant, je pense qu'en fait, le vrai problème qu'on a quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on voit qu'on veut essayer, par exemple, sur l'union bancaire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai un mécanisme ici d'union bancaire de la zone euro ou de l'Union européenne. Et à chaque fois, on est obligé de créer des systèmes pour intégrer, malgré tout, des assurances. Parce que si les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro viennent nous déstabiliser, je vous signale aussi qu'il y a des pays qui, eux, sont dans un système intermédiaire où ils sont rattachés à l'euro sans avoir adopté l'euro, hein. Il y a des pays d'Europe du Nord qui ont choisi de ne pas être dans la zone euro, mais qui ont un mécanisme en fait où ils ont malgré tout, ils veulent en fait que leur monnaie soit attachée au niveau de l'euro et ne puisse pas fluctuer librement. Donc on risque d'arriver aussi avec une Union européenne à 27, avec des pays qui sont en dehors, des pays qui ont un mécanisme de relation privilégiée à l'euro, et des pays de la zone euro, et nous, avec des mécanismes de gouvernement, d'assurance et de réglementation renforcés, il va falloir, enfin, ce que je vous racontais tout à l'heure, sur on réfléchit au Parlement européen pour créer une sous-commission aux zones euro, en disant, au Parlement européen, vous avez toute l'Union européenne, mais si on veut avancer sur des mécanismes de mutualisation dans la zone euro, et qu'on veut que ça soit démocratique, il faut qu'il y ait un sous-parlement européen de la zone euro. Imaginons qu'il y ait les trois pays, je crois, qui ont une relation privilégiée avec l'euro de l'Europe du Nord, qui disent « Mais nous, on voudrait bien des garanties quand même avec vous. On va faire une sous-sous-commission avec les trois pays qui sont plus ou moins rattachés à la zone euro. » C'est très compliqué. Je crois que le mécanisme... Je n'ai pas de réponse sur la géométrie variable, mais à partir du moment où on veut améliorer la gouvernance, on va avoir certainement de plus en plus ce problème-là à gérer, puisqu'on va vouloir aller de plus en plus loin dans l'organisation de la gouvernance, sur qu'est-ce qu'on fait à chaque fois avec les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro, mais on voudrait quand même qu'ils prennent des engagements, par exemple, pour assainir leur système bancaire, de manière à ce qu'ils ne viennent pas perturber le système bancaire de la zone euro.
Comme ça s'était fait il y a, je crois, 2 décennies un peu moins, certains avaient évoqué en tant qu'Union européenne, à l'époque du couple Mitterrand-Kohl, cette fameuse idée de l'Europe des cercles concentriques. On va dire France, Allemagne, en gros, et quelques pays, une Europe super intégrée au niveau européen, et fort un peu, et puis chacun, entre guillemets, pourrait rentrer et s'intégrer de plus en plus, suivant ses capacités et à son
vous proposez de multiplier les sous-parlements européens. Je pense réellement, si on veut qu'il y ait plus de démocratie, ça va être très compliqué, ce que je viens de vous raconter là. Si on n'a pas les mêmes engagements, et donc si on a plusieurs zones, entre guillemets, je suis assez convaincu qu'il faut qu'il y ait quand même un mécanisme plus démocratique, vous allez forcément devoir avoir des sous-parlements, puisqu'on n'aura pas les mêmes engagements, les mêmes règles et les mêmes contraintes. Et dès qu'on rentre là-dedans, je vous assure qu'on est dans un mécano où on se dit, mais comment les citoyens vont pouvoir voter clairement en sachant qu'ils engagent des sous-parlements qui ne vont pas négocier exactement les mêmes choses. Donc je pense qu'il faut, quelque part, je suis en train de vous dire, certainement qu'il y a un problème, mais maintenant, il faut quand même qu'on joue de la transparence. Il faut que le mécanisme soit assez transparent et simple dans ce qu'on fait. Ça veut dire que certainement qu'il y a, par exemple, des règles qu'il va falloir imposer à l'ensemble des pays de l'Union européenne, même quand ils ne sont pas dans la zone euro. Autrement, si chacun a des engagements et, par exemple, si chacun peut faire ce qu'il veut un peu avec son système bancaire, ça va être très compliqué. Et l'union bancaire, c'est l'exemple typique, on est en train de négocier pour qu'il y ait des engagements qui soient communs à la fois pour les pays de la zone euro et les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro. Ça serait assez ennuyeux qu'on assainisse une seule partie du système bancaire.
Apparemment, c'est la Croatie qui en a un peu payé le prix, parce qu'apparemment, je crois que le 1er juillet prochain, apparemment, pour moi, ça s'assiste aux critères démocratiques de plus ou moins indépendants de la justice, même selon. Et puis apparemment, je crois que certains dirigeants croates, ou certains même observateurs européens, se sont dit, bon, c'est vrai qu'il y a eu le fait que l'entrée en 2004, à titre personnel, quand je vois sur le plan politique et économique, avoir fermé la Bulgarie, la Roumanie en 2004, ça a été pire qu'une catastrophe. Et le problème, mais maintenant, directement, ils ont commencé à tirer des leçons, notamment par rapport à ce que vous avez évoqué, avec la rentrée dans 2 mois dans l'Union européenne de la Croatie, apparemment, les Croates ont dit que les conditions auxquelles on a dû satisfaire, par rapport à certains pays qui sont rentrés en 2004, ça a été véritablement un examen d'entrée digne de je ne sais quoi. Alors, ils sont bons, c'est vrai que la Croatie, elle ne va pas peser grand-chose dans le système économique européen. Si à terme des pays...
Il n'y a pas eu un changement de majorité, surtout.
Le
débat sur les pays qui sont rentrés récemment, c'est qu'il y a eu des changements de majorité, que le coût politique, en fait, de ceux qui ont porté le projet d'entrée dans la zone euro, pour eux, a été assez catastrophique parce qu'ils ont perdu leur majorité. Et donc, c'est ça qu'on est en train de regarder. C'est que les tout derniers qui sont rentrés, 2011, ça a été l'Estonie, et 2009, la Slovaquie, et 2007, la Slovénie. Et je crois qu'il y a eu des débats sur, en fait, ceux qui ont porté le projet d'entrée dans la zone euro l'ont payé du fait qu'ils ont perdu la majorité. Donc, c'est encore une fois un coup démocratique. Est-ce qu'il y a une autre question, non? On arrête là? Bon, eh bien, à l'année prochaine, j'espère, sur l'évaluation des politiques publiques.